Radio Kapi. Oh, Kapi.
Le journal Pascal Massirica.
Les titres de l'actualité, déchéance à Matadi du président de l'Assemblée provinciale du Congo central et du rapporteur adjoint. Les membres de l'organe délibérant reprochent à Jean-Claude Mvuemba et à Bilintumba la violation du règlement intérieur, le détournement des émoluments et l'usurpation de pouvoir. Fin ce jeudi à Kinshasa d'un séminaire de 48 heures organisé par des femmes sur leur contribution à la prévention des conflits. Ces assises ont été organisées sous l'égide de la section genre de la MONUSCO. Notre invité, c'est le coordonnateur du programme gouvernance et lutte contre la corruption au PNUD. Jules Kabangou parle de l'harmonisation des vues sur les réformes de la justice, l'administration pénitentiaire et des textes anticorruption au centre d'un échange qui se tient à Zongo, au Congo central. Madame, Messieurs, bonsoir. De la politique pour commencer ce journal. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central et le rapporteur adjoint ont été déchus de leurs fonctions mardi dernier. Les députés provinciaux reprochent à Jean-Claude Mvuemba et Bilintumba la violation du règlement intérieur, le détournement des émoluments des députés provinciaux et l'usurpation de pouvoir. Reportage à Matadi de Nana Plurich Mambou.
Pour les cadres de concertation de la société civile du Congo central, un énième changement à la tête de l'Assemblée provinciale, après des 7 mois seulement de la tenue des élections en RDC, est une aberration qui ne fait que ternir l'image de marque de la province, chère à l'ancien président Joseph Kasavubu. Ainsi, le développement du Congo central se trouve coincé dans un gouffre infernal depuis plusieurs années à cause des guéguerres interinstitutionnelles inutiles. Les présidents du comité des sages de cette structure citoyenne appellent les dirigeants de l'Assemblée provinciale et du gouvernement à se comporter en vrai homme d'État. Fidèle Mwandamikiama.
Un sentiment de regret pour la province, en fait, qui est régressée. En bout de 5 ans, 3 présidents de l'Assemblée se succèdent, 4 gouverneurs. Nous encourageons beaucoup les politiques à être des hommes d'État.
La cohésion provinciale des notables issus des 366 groupements du Congo central affirme pour sa part que cette déchéance du président de l'Assemblée provinciale n'a rien à voir avec les intérêts du peuple. Joseph Mabanga en est le président.
Ce n'est qu'une guerre qui divise Jean-Claude Mvuemba et Guy Badou, tous de tristes mémoires pour notre province, liés à leurs intérêts égoïstes dans les partages illégaux de ressources de la province. Ça n'a rien à voir avec les intérêts du peuple.
Rappelons que l'éviction de Jean-Claude Mvuemba a été annoncée le mardi par une correspondance du vice-président de l'Assemblée provinciale, Samuel Nimi. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Élection de 2023 dans la province du Kwilu. La coordonnatrice de la Commission nationale des droits de l'homme encourage les femmes de cette province à postuler elles aussi à la députation nationale et provinciale. Appel lancé à quelques jours du dépôt des candidatures à la CENI. Emilienne Ouélé appelle les femmes à tout mettre en œuvre pour contribuer elles aussi au développement de leur terroir. Elle s'est confiée à Irène Boma.
Je demande aux femmes de la province du Kwilu en général et de Bandundu en particulier que dans quelques jours nous allons lancer l'opération de dépôt de candidature. Nous qui sommes toujours derrière les politiciens, ne partons pas seulement pour accueillir les politiciens et les accompagner pour le dépôt de la candidature. Mais allons-y déposer nos candidatures. Il y a de ceux qui sont les leaders, il y a de ceux qu'on a formés pour devenir leaders. Femmes leaders, ne soyons pas toujours les suppliantes des hommes, mais soyons aussi à la tête des listes de dépôt de candidature. Au parti politique, nous sommes tous conscients que les femmes dirigent mieux. Nous avons déjà l'expérience. Nous vous demandons de laisser la chance aussi à la femme pour qu'il y ait l'égalité. 50-50. Hommes-femmes, nous voulons marcher ensemble pour faire progresser notre ville de Bandundu et notre chère province du Kwilu.
L'actualité, c'est aussi la fin ce jeudi à Kinshasa d'un atelier de 48 heures organisé par des femmes sur leur contribution à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix en RDC. C'était sous l'égide de la section genre de la MONUSCO. Ce rendez-vous avait pour thème Femmes, paix et développement. Des précisions avec la consultante en genre, participation citoyenne et développement. Les propos de Madame Faïda Mwangilwa ont été recueillis par Jemima Mbuyulu.
au niveau de la MONUSCO avec d'autres partenaires. Les femmes, ce sont des actrices de paix. Et en ce moment où notre pays se prépare aux élections, il y a lieu de conjuguer les énergies pour réduire au maximum possible les violences et surtout impliquer les femmes dans le processus de prévention, gestion et résolution des conflits. L'histoire retiendra que les femmes congolaises en un moment ont beaucoup travaillé pour ramener la paix dans notre pays et influencer positivement ce processus de paix. Et voilà l'objet de nos travaux qui ont commencé hier et que nous allons terminer aujourd'hui.
Autre nouvelle en plus bref, au Nord Kivu, des déplacés affluent en masse depuis quelques jours à Kichanga, chefferie de Bachalimokoto, dans les territoires de Masisi. Des sources concordantes rapportent à Radio Kapi que ces habitants fuient les affrontements entre les groupes armés locaux et les rebelles du M23 dans les villages de Kasoura, Boutale et Kaira. Les habitants des localités de Kazimba et de Kitwayogo, quant à eux, se sont réfugiés à Bukombo. Non loin de là, au Sud Kivu, le responsable du parc national de Kaoujibiega Penkabé tire la sonnette d'alarme sur la présence suspecte d'hommes armés dans cet espace du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Penkabé redoute en effet que ces individus armés tenteraient d'envahir le parc de Kaoujibiega pour exploiter ses ressources. Pour en parler, retrouvons à Bukavu Emmanuel Elemejua Kabedi.
Le parc national de Kaoujibiega lance cette alerte à travers un communiqué de presse publié ce mercredi. La direction du PNKB dit détenir des informations sur d'éventuels mouvements suspects de groupes d'individus armés dans la zone de Nkenje, en groupement d'Irambi Katana, mais aussi dans la zone de Kakongola, en groupement de Kagabi, territoire de Kabaré. Ce communiqué poursuit que ces hommes armés et non identifiés auraient l'intention d'exploiter illégalement les ressources du parc, ce qui menace l'intégrité de la biodiversité préservée dans le parc. Ainsi, le Penkabé demande-t-il aux habitants riverains, dont les peuples autochtones, à ne pas apporter soutien à ces inciviques qui menacent la sécurité de cette aire protégée et celle des communautés locales. Les mêmes communautés riveraines et même d'autres acteurs sont appelés à s'impliquer pour déjouer tout acte tendant à semer l'insécurité dans ces patrimoines mondiaux de l'UNESCO. Toutefois, malgré la présence de ces individus armés, le parc national de Kaoujibiega tient à assurer tout le monde sur la sécurité de la zone touristique ainsi que celle de ses gorilles emblématiques. Emmanuel Amejoa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
En Ituri, pendant ces temps, 90 déplacés de guerre du site de Kigonze à Bunia et à Kasenyi, localité située à 55 km de la ville de Bunia, ont été formés à la fabrication de savon et à la coupe et couture organisée par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Ce recyclage vise à les rendre plus autonomes. À Bunia, la correspondance de Jean-Claude Lokidile.
Marie-Esther Amani vit sur le site de Kigonze depuis 6 ans à son arrivée en provenance de la commune rurale de Mongualo où elle a fui les attaques des rebelles de la Codeco et n'arrivait pas à prendre en charge ses enfants. Grâce à l'appui financier du HACER, l'ONG Sophie Padi a organisé une formation en coupe et couture à laquelle elle a participé. Devenue couturière, elle s'occupe mieux de ses 4 enfants, même si les revenus tirés de cette activité restent très modestes et insuffisants. Je tiens vraiment à dire merci à Sophie Padi parce qu'avant je menais une vie très difficile. J'avais des difficultés pour trouver à manger. Mais depuis que j'ai appris à coudre les habits, je m'en sors quand même, ne fût-ce que pour trouver du savon pour mes enfants. Selon le HCR, 90 personnes ont déjà été formées, dont 30 installées à Kasenyi. Certains bénéficiaires fabriquent des serviettes hygiéniques réutilisables qui sont rachetées par des organisations humanitaires qui les distribuent ensuite aux femmes et filles en âge de procréer. Fawzi Aïdara, chargée des relations extérieures au bureau du HCR à Bunia.
Donc on met à contribution nos partenaires. Au lieu d'acheter ça ailleurs ou de commander ça de l'extérieur, alors on achète directement avec ces femmes-là. Elles ont un revenu.
D'autres déplacés exercent le petit commerce pour la survie de leur famille. Bunia, Jean-Claude Lequi, Dile Radio Kapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où 20 écoles primaires de la commune d'Ouicha viennent de recevoir du matériel didactique dans le cadre du projet de 2 ans initié par le Conseil norvégien pour les réfugiés. L'inspecteur de l'enseignement primaire de Beni assure que ce projet va améliorer de mieux en mieux la qualité de l'enseignement dans la zone. Il défend ce Kambalé est au micro de Marc Marofimo.
Nous disons merci beaucoup NRC parce que l'appui que NRC est venu apporter à l'EPST, tout le monde le voit, tout le monde est témoin, c'est un appui très significatif. Et nous pensons qu'il y a beaucoup d'avancées dans le cadre de niveau des apprenants et les enfants ont été boostés en matière, en apprentissage, en compétences dans les classes qu'on appelle classes de récupération. On nous a aidé avec une certaine quantité de talks, ça va nous aider aussi à achever nos travaux de construction au niveau de la sous-division. Vous savez que les écoles viennent d'être appuyées pendant 2 ans. Il y a certaines écoles qui ont bénéficié des bâtiments scolaires, des matériels didactiques, on remet même le kit élève aux apprenants, on remet même les kits qu'on appelle kits récréatifs. Donc ça permet aux enfants de faire leur jeu au niveau de l'école. Ils ont construit des latrines pour certaines écoles. Ça dépendrait juste de besoins particuliers de chaque école.
Le journal sur Radio Okapi se poursuit en ce moment avec cette question. Comment renforcer le cadre légal de la lutte contre l'impunité et la corruption en RDC? Cette interrogation a été au centre des échanges de 2 jours organisés à Zongo dans la province du Congo central entre des députés, des sénateurs, des représentants des organisations étatiques et non étatiques du secteur. La rencontre s'est tenue alors que l'agence de prévention et de lutte contre la corruption plaide pour le vote d'une loi contre la corruption.
Actualité internationale.
Une 40aine de chefs d'État et de gouvernement sont réunis aujourd'hui, jeudi et demain vendredi à Paris, en France, pour un nouveau pacte financier mondial. Objectif de ce sommet, mieux répondre efficacement aux besoins de développement des pays du Sud. L'accès au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale est jugé actuellement difficile par les pays en développement alors que les besoins sont immenses, notamment pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis les forces armées russes et groupes armés affiliés ont été ajoutés à la liste de la honte des Nations Unies sur les violations des droits des enfants lors des conflits pour leurs actions commises en Ukraine. C'est ce qu'indique en tout cas le rapport annuel du secrétaire général des Nations Unies qui sera publié la semaine prochaine selon l'agence France Presse AFP. Antonio Guterres s'est dit vivement choqué par le nombre élevé d'attaques contre des écoles, des hôpitaux, le personnel protégé et le nombre élevé des morts et de mutilations d'enfants attribuées aux forces russes et aux groupes armés affiliés.
L'invité.
Notre invité, c'est le coordonnateur du programme gouvernance et lutte contre la corruption au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Jules Kabangu parle de l'harmonisation des vues sur les réformes du secteur de la justice, de l'administration pénitentiaire et des textes anticorruption au centre d'un échange qui se tient à Zongo entre députés, sénateurs, magistrats, agents des structures techniques du gouvernement central et la société civile. Il s'entretient avec Michel Kifinangoy.
Monsieur Jules Kabangu, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes ici à Zongo où vous venez de lancer un atelier de réflexion sur les réformes du secteur de la justice et de l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce qui a motivé cette initiative?
Cette initiative est menée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme conjoint d'appui à la réforme de la justice, le projet d'appui à la lutte contre la corruption et le projet d'appui à la réforme du Parlement, initié par le PNUD, avec quelques sections de la MONUSCO, notamment le BCNUDH, Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, la section d'appui à la justice et l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire. Le but majeur, c'est d'offrir un cadre à tous les acteurs qui interviennent dans la réforme du secteur de la justice et pénitentiaire, mais aussi dans la lutte contre l'impunité et la corruption. Et là, nous avons réuni à ce jour quelques sénateurs et députés qui sont intéressés par ces réformes autour de cette table. Nous avions aussi associé le ministère de la Justice, le ministère des Droits Humains, les différentes agences spécialisées dans la lutte contre la corruption ainsi que dans la lutte contre l'impunité pour fédérer les ressources, les énergies, l'intelligence afin de permettre aux députés de savoir quelles sont les urgences en termes de réforme. Et ces urgences seront portées par ces députés et sénateurs au niveau des commissions PAJ, des deux chambres du Parlement, pour pousser le plaidoyer de manière à ce qu'avant la fin de cette législature, qu'on puisse avoir trois lois. Il s'agit de la révision de la loi portant statut des magistrats, la loi sur l'aide légale ou l'assistance juridique et judiciaire, et la loi anticorruption. Il faut noter que ces lois sont déjà en examen au niveau des deux chambres du Parlement, mais pour autant que cet examen a pris beaucoup de temps, nous nous sommes réunis aujourd'hui pour définir une feuille de route.
Nous avons constaté au cours du débat de fortes tensions entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice. Avez-vous senti là une détermination pour le Conseil supérieur de la magistrature de reconquérir définitivement son indépendance?
Nous, en tant que partenaires des Nations Unies, nous sommes neutres. Nous avons offert seulement le cadre pour que les acteurs étatiques ainsi que la société civile échangent. Et aujourd'hui, le débat a été passionné et nous estimons que c'est important que les députés puissent adopter une telle démarche, aller consulter les personnes qui doivent les appliquer. La loi sur le magistrat concerne à 100% le Conseil de la magistrature. Quoi de plus normal que ce conseil soit aussi écouté? Et c'est ça le cadre que nous offrons. Donc le débat est en train d'avancer très bien et tous les partenaires sont satisfaits parce qu'ils estiment qu'ils n'ont jamais eu cette occasion.
Et pensez-vous qu'avec ces échanges, on arrivera réellement à une harmonisation de points de vue?
Oui, déjà dès ce soir, on a vu dans plusieurs groupes ou thématiques, il y a déjà une harmonisation sur l'une ou l'autre loi. Et ça, c'est déjà une avancée significative. Mais demain, les gens vont continuer maintenant pour analyser quelles sont les dispositions qui vont permettre à ce que le peuple congolais se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, la société civile est là pour vérifier tous ces aspects. Parce qu'elle a été associée pour ça. Les magistrats, ainsi que d'autres organes d'audit, sont là pour permettre à ce qu'ils puissent comprendre, déjà faire comprendre aux députés l'esprit de chaque disposition légale. Et même, vous allez vous rendre compte lors des débats, les députés étaient très contents des échanges. Ils ont dit, voilà, nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments, suffisamment d'informations pouvant permettre à aller convaincre aussi les membres de leurs commissions respectives pour à ce que les lois qui seront votées soient les lois qui ont été conçues avec l'apport de ceux-là qui sont censés les appliquer. Et là, à ce niveau-là, nous sommes satisfaits et nous estimons que si le débat continue comme ça, nous allons vraiment arriver au résultat escompté.
Prennent part à cet atelier une dizaine de députés alors qu'il y en a 500. Quelles sont les chances que ces lois ou alors le travail accompli ici pourrait facilement être adopté par les deux chambres du Parlement?
Ok, on l'a dit, c'est un processus. Le plaidoyer, c'est pas une action isolée. Ça commence par un pas, ça c'est le premier pas. La prochaine étape serait maintenant d'accompagner ces députés lors de la présentation de ces moutures des propositions au projet de loi au sein de commissions PAJ respectives. Et là, ça sera la deuxième étape. Nous allons les accompagner pour que nous nous assurons que ces députés ont porté la chose et ont exprimé l'esprit qui a été présenté lors de ces échanges. Et nous allons aussi définir les prochaines étapes après la commission PAJ. Quelles sont d'autres actions de plaidoyer ensemble avec ces députés et les sénateurs pour arriver à l'adoption de ces lois dans l'unique session qui reste pour cette législature?
Monsieur Jules Kabangou, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le coordonnateur du programme Gouvernance et lutte contre la corruption au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Jules Kabangou a été interviewé à Zongo par Michel Kifinangoy. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.